enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Deux Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Un texte énigmatique, mais tellement rempli de révélations. Nous allons lire ce texte et nous allons comprendre qu'au travers les faits et gestes d'un prophète, il y a le message de Dieu. Je vous dis qu'au travers les faits et gestes d'un prophète, nous pouvons découvrir le message de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes tous quelque part prophètes de l'Éternel, prophètes pour les nations. Cela veut dire que nous avons quelque chose à dire aux nations qui est caché à leurs yeux. Et nous devons révéler quelque chose. Notre témoignage, nos faits et gestes, notre comportement sera prophétique pour la gloire de Dieu. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Je bénis le Seigneur pour les situations où nous sommes un peu à l'étroit et où il y a besoin d'espace. C'est lorsque nous réalisons que nous sommes à l'étroit que Dieu peut nous donner l'espace. Si vous voulez que Dieu élargisse votre vision, élargisse la puissance de votre foi, élargisse votre mentalité, vous devez d'abord considérer que vous êtes à l'étroit et que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Quelle démarche curieuse, mais tellement prophétique pour nous. Élisée répondit, « Allez !» Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Les voilà tous en route. Les disciples d'Élisée, disciples du Dieu d'Israël, élèves du prophète, considèrent maintenant et réalisent qu'ils sont à l'étroit et qu'il faut changer de situation. Ils ont un projet, ils veulent bâtir et ils demandent le soutien à Élisée. Élisée va répondre favorablement et partir avec eux près du Jourdain. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Vous imaginez la scène, et voilà tous ces hommes partis près du Jourdain pour élargir l'espace. Alléluia! Nous voulons élargir l'espace. C'est le message que je voudrais vous adresser. Élargir l'espace de votre vie, de votre existence. Élargir pour une vision plus grande, ne pas rester à l'étroit et savoir changer d'endroit. Lorsque nous voulons aller plus loin avec Dieu, lorsque nous voulons plus de bénédictions dans notre vie, il faut savoir changer d'endroit, il faut savoir bouger, il faut savoir abandonner un peu certaines choses pour en découvrir d'autres, il faut savoir voler de ses propres ailes et se prendre en charge. Il n'y a pas d'âge pour savoir se prendre en charge. Dès qu'un enfant a l'âge de raison, il est capable de se prendre en charge sur beaucoup de points de sa vie. Naturellement, il aura toujours besoin de tuteurs, de parents pour le conduire. Et même quand il aura 40 ans, 50 ans, il aura toujours besoin des autres. Il aura toujours besoin de ses parents spirituels, physiques. Nous avons tous besoin de tuteurs, mais béni soit le Seigneur de ce que plus nous grandissons, plus nous réalisons que nous avons un rôle à jouer dans ce monde, un rôle à jouer dans la société, un rôle à jouer dans nos familles et dans nos maisons, et que pour pouvoir accomplir ce rôle qui nous est donné, confié par Dieu, nous avons besoin d'élargir l'espace de notre mentalité et nous avons besoin de nous prendre en charge progressivement. Il faut apprendre aux enfants très jeunes à se prendre en charge, à faire leur lit avant de partir à l'école. Je voudrais être très concret dans mon message et vous dire que la prise en charge est une mentalité qui se transmet dès l'âge de raison. Nous voulons être des gens imitateurs de Christ, faits à la stature d'hommes et de femmes spirituels, capables de porter les fardeaux que Dieu nous donne, pas capables de porter notre croix et capables d'assumer nos responsabilités. L'éducation se fait très jeune. Et lorsque nous venons au Seigneur, quel que soit notre âge, nous sommes une jeune brebis. Et très jeune, le Seigneur nous prend en charge pour nous apprendre à être éduqués selon l'œuvre de Christ, c'est-à-dire faire le travail de Christ. Ne vous laissez pas prendre en charge constamment et n'éduquez pas vos enfants à être constamment pris en charge. Celui qui est pris en charge est esclave de celui qui le prend en charge. Non, je vous dis que celui qui emprunte est esclave de celui qui lui prête. Et celui qui est pris en charge est esclave aussi longtemps qu'il est pris en charge. Le jour où il n'est plus pris en charge, mais qu'il prend lui en charge, il devient un maître de la foi, un maître du monde, un maître dans cette société, un ambassadeur de Christ. Je dis que nous serons toujours pris en charge plus ou moins. Mais il vient des moments où Dieu est fatigué de certaines prises en charge. Il veut que nous puissions élargir notre mentalité, que ce message parle à plusieurs ce matin. Dieu fait des miracles. Si tu es pauvre, mon ami, il peut te rendre riche. Si tu es pauvre, il peut te donner une situation sociale beaucoup plus élevée que ce que tu ne peux imaginer. Si tu n'es pas intelligent, il va te donner l'intelligence. Cesse de te cacher derrière tes problèmes et tes faiblesses pour justifier ton inactivité. Les faiblesses ne doivent pas être une justification de l'inactivité. Jamais, au grand jamais. Dieu veut faire de nous des hommes, des femmes battants, battantes pour le Seigneur et pour cette vie. Il veut que nous soyons des exemples. Les fils des prophètes, les enfants spirituels des prophètes avaient réalisé peut-être ce que leur père n'avait pas réalisé. Quand il est dit les fils des prophètes ici, il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre les enfants spirituels d'Élisée, les prophètes enseignés par Élisée, et il faut comprendre les enfants des prophètes enseignés par Élisée. Parfois, le disciple dépasse le maître. Béni soit le Seigneur que nous ne dépasserons jamais notre maître par excellence Jésus-Christ. Mais nous pouvons et nous devons et nous avons le devoir de dépasser nos maîtres spirituels en ce monde, de dépasser ceux qui ont été nos tuteurs d'hier. Alors la prise de conscience est faite parce que l'Esprit de Dieu agit. Et quand l'Esprit de Dieu agit, l'Esprit ouvre la mentalité des chrétiens et va même jusqu'à interpeller et solliciter la grâce dans le cœur de leurs enfants et de ceux qui peut-être n'ont pas été directement au profit de la grâce de l'enseignement de la parole. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il est question du bois, de la croix, de la poutre de Jésus-Christ. Emparez-vous de la croix et bâtissez au nom de Dieu. Au nom de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le grand Dieu d'Israël qui nous est révélé par Jésus-Christ, le Messie annoncé. Le bois, la poutre ici, fait aussi référence à notre propre croix. Celui qui renonce à porter sa croix et qui veut servir Dieu fera naufrage. Celui qui veut élargir sa mentalité sans accepter de porter sa propre croix fera naufrage. La vraie mentalité chrétienne est celle qui ne s'apitoie pas sur son sort, mais qui est interpellée par l'œuvre de Dieu et le sort de son prochain. Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai ». Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Oh, béni soit le Seigneur. Coupez du bois. Commencez à se mettre au travail. Il y a des gens qui voudraient que la maison soit construite avant même d'avoir porté le premier aglot. Il y a des gens qui voudraient que la maison soit construite avant même d'avoir coupé le premier tronçon de bois, si c'est une maison en bois, naturellement. Il faut commencer, c'est l'espérance. La maison que nous construisons, l'avenir que nous construisons dans notre maison, avec nos enfants, notre mari, notre entourage, dans l'œuvre de Dieu, ce que nous commençons à faire est visionné dans la foi. Alléluia. La vision de la foi, mes amis, c'est ce qu'ont eu ces disciples d'Élisée. C'est ce qu'ont eu les fils des prophètes. Ceux qui ont été engendrés par les prophètes. Ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Il est question ici de l'image des chrétiens engendrés par les ministères. Cessez de croire que vous grandirez dans la foi sans être édifié par les hommes de Dieu. Vous avez besoin, j'ai besoin de rencontrer, d'écouter les hommes de Dieu pour édifier ma foi. Je ne peux pas édifier ma foi en me frottant dans les raisonnements et les idées, n'est-ce pas, de chacun. Venez à l'église. Venez écouter le message de l'Évangile, vous y découvrirez le don de la foi, les mystères cachés qui sont révélés à l'homme de Dieu, qui prend son temps pour méditer et qui est validé, appelé par Dieu pour enseigner. C'est cela la vérité, c'est de pouvoir construire dans la foi. Les fils des prophètes avaient déjà visionné la maison nouvelle avant même qu'elle soit construite. Le monde ne peut pas comprendre cela, n'est-ce pas? Mais nous, chrétiens, nous pouvons comprendre ces choses. Nous pouvons les vivre. Quelle grâce extraordinaire! Quel miracle de la puissance de Dieu! Nous faire visionner une chose avant même qu'elle n'existe. Oh, alléluia! C'est ainsi le caractère de Dieu. C'est ainsi le caractère que Dieu nous a transmis. Dieu visionne une chose et il prévoit son existence avant même qu'elle soit. Ayant prévu son existence avant même qu'elle soit, la chose existe. C'est pourquoi nous devons être de la nature divine en produisant la foi dans la vision de ce que nous devons faire. Ils coupent du bois. La maison n'est pas encore construite, mais dans leur esprit, elle l'est déjà. Alléluia. Si vous priez pour la conversion de quelqu'un, visionnez déjà son attitude de converti. Alors là, je le dis et je le redis, ne soyons pas des fanatiques. La foi ne se manifeste qu'auprès de ceux qui ont la foi. Lorsque la foi n'est pas visible, lorsqu'elle n'a pas été traduite dans le visible. Si vous êtes malade et que Dieu vous a dit que vous êtes guéri, témoignez de votre guérison auprès de ceux qui peuvent comprendre que vous êtes déjà guéri avant même que la guérison ne soit constatée. Mais n'allez pas crier sur les toits des païens que vous êtes guéri si vous n'êtes pas encore guéri. Dites, le Seigneur a promis dans sa parole de me guérir et j'y crois. Et le jour où vous serez visiblement guéri, vous pourrez aller vous présenter en disant, Jésus-Christ m'a guéri. Si vous avez un projet pour le Seigneur et que ce projet soit si grand qu'il faille la foi pour y croire, prenez garde à qui vous confessez ces choses et avancez dans la sagesse. Il y a là quelque chose à comprendre. Je ne voudrais pas que l'on interprète ce que je dis. Je dis simplement que dans le témoignage, nous devons être sérieux. Nous devons être fidèles, mais sérieux. Et nous devons être suffisamment intelligents pour savoir quoi dire, à qui le dire. Il y a des gens qui sont capables de comprendre, d'autres qui n'en sont pas encore capables. Annoncez-leur la croix, ça leur fera beaucoup plus de bien que de leur annoncer des choses qui ne sont pas encore arrivées dans le domaine de ce que Dieu vous a promis. n'avons qu'une seule chose à annoncer prophétiquement, c'est le retour de Jésus qui n'est pas encore là. Et nous avons à prêcher la folie de la croix. Mais en ce qui concerne des expériences personnelles, soyez prudents, afin que cela ne soit pas un contre-témoignage. Alors, les fils des prophètes avaient déjà visionné leur maison, leur élargissement. Ils voyaient déjà un nouveau lieu d'habitation où ils seraient plus à l'aise. Et dans leur esprit, cela était déjà construit. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Quelle curieuse chose! Pourquoi est-ce que la Bible nous donne ce détail? Ils sont partis tous ensemble, plein de joie, plein de foi, voulant élargir leur espace, leur mentalité, voulant avoir plus d'espace pour prophétiser au nom de l'Éternel, pour apporter la prophétie auprès du peuple, pour multiplier le peuple prophétique. Et voilà qu'ils arrivent au Jourdain, ils commencent à couper du bois, et pendant le travail, un événement va se produire. Un événement qui va nous parler. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Cela veut dire que la hache est composée d'un bois et d'un fer, n'est-ce pas? Voyons tous l'image d'une hache. Si nous frappons très fort, il se peut que le fer de la hache, qui sert à frapper le bois et à couper, se détache de son support. C'est ainsi que le fer est éjecté et qu'il reste dans la main de l'ouvrier uniquement le morceau de bois, dénudé du fer qui sert à abattre. Alors, pendant qu'il travaille, le fer est projeté dans l'eau du Jourdain. Il s'écria, l'homme qui avait la hache, qui était maintenant dépourvu de son fer, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» Comprenons ici qu'il est question que la hache était empruntée. L'ouvrier qui était en train de travailler n'avait pas sa propre hache. C'est une hache qu'il avait empruntée à quelqu'un. Et maintenant, il était très embêté parce qu'il fallait qu'il rembourse ou qu'il rende cette hache. Mais comme le fer était tombé dans les eaux profondes du Jourdain, comment est-ce que cela était possible? Il se trouvait donc bien embarrassé, il s'adresse au prophète. « Ah, mon Seigneur, il était emprunté, ce fer de hache était emprunté, il n'était pas à moi, comment vais-je faire ?» L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Il n'y a que des solutions avec Dieu. Cessons de dire qu'il n'y a que des problèmes, il n'y a que des solutions. Et si vous venez vers un homme de Dieu qui vous dit qu'il n'y a pas de solution, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Il y a toujours une solution avec le Seigneur. Il est question du sérieux de l'Évangile. Devons venir vers les chrétiens avec des solutions. Et nous devons trouver des solutions auprès des chrétiens. Prenez-vous en charge un peu et vous trouverez des solutions dans votre cœur, pour vous et pour les autres. Il y a toujours une solution. Où est-il tombé? Explique-moi un peu. N'essayons pas de répondre hâtivement aux problèmes des gens. Essayons de comprendre. Parfois, la parole est claire et nette et nous répondons avec une parole de sagesse, une parole de connaissance, une parole prophétique, un don spirituel. Mais quelquefois, le don spirituel n'est pas évident. Alors, il faut savoir écouter les gens. Il faut savoir leur poser les bonnes questions et il faut comprendre leur situation pour pouvoir les aider. Il y a un peu de respect de l'individu et un peu de temps à prendre pour aider les gens dans leurs problèmes. Et il lui montra l'homme qui avait perdu le fer de la hache, il lui montra la place, l'endroit où le fer était tombé dans l'eau. Alors Élisée coupa un morceau de bois. La parole de Dieu est précise. Elle nous dépeint la scène. J'aime les histoires bibliques, j'aime quand Dieu nous dépeint une scène qui s'est produite comme cela et qui est empreinte d'un enseignement. Car ce n'est pas par hasard que ces choses se sont produites. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Nous voilà dans le surnaturel. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le surnaturel de Dieu est naturel de son royaume et surnaturel de la terre. Lorsque nous disons surnaturel, ces choses sont surnaturelles pour le règne terrestre, mais sont tout à fait naturelles pour le royaume de Dieu. Si vous entrez dans le royaume de Dieu, le surnaturel deviendra naturel. Alléluia. Élisée, le prophète, était un homme qui avait l'habitude de marcher dans le royaume des cieux. Quand je dis marcher dans le royaume de Dieu, il avait l'habitude de cette communion avec le Saint-Esprit, il avait la communion dans sa vie personnelle. Nous devons apprendre à marcher avec la présence de Dieu, devons apprendre à marcher avec Jésus-Christ dans l'Église, mais en dehors de l'Église. Je vous dirais même que les moments les plus intimes dans la présence de Dieu, vous devriez les trouver lorsque vous êtes seul avec votre Seigneur. Lorsque vous êtes chez vous, dans votre voiture, que vous vous promenez, que vous êtes seul. Car Dieu aime parler au cœur de l'individu. Le Seigneur vous connaît personnellement. Il veut vous parler personnellement. Dieu est dans le miracle de l'omniprésence. Tout est comptabilisé devant lui. Si un ordinateur fait de main d'homme, qui n'est pas spirituel, qui est un effet matériel de l'échange électrique, de l'échange même parfois des composants que les hommes ont faits, si un ordinateur est capable de recenser des millions d'informations, comment est-ce que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, ne serait pas capable de recenser des millions d'informations dans son esprit? Il vous connaît personnellement. Il veut vous rencontrer personnellement. Il veut vous toucher. Il veut que vous vous convertissiez à lui. Non pas à une religion, non pas à un mouvement, non pas à une idéologie, à lui seul, Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il vous connaît, il me connaît et il veut me rencontrer personnellement. Élisée avait l'habitude du surnaturel parce qu'il marchait avec Dieu quotidiennement. Il n'était pas un fardeau, il portait les fardeaux. Il n'était pas à la charge, il prenait les charges. Ça, c'est la dignité d'un homme. Alors, il va être confronté au surnaturel, ce qui pour lui sera naturel. Le monde ne peut pas comprendre cela. Les gens qui n'ont pas eu une expérience avec Dieu ont du mal à comprendre ces choses. Mais elles sont réelles. Le surnaturel terrestre, c'est le naturel de Dieu. Le fer de la hache va maintenant surnager. C'est-à-dire que ce fer va défier les lois de la pesanteur de la physique. Ce fer qui, par nature, ne doit pas surnager, ne doit pas flotter, mais doit couler au fond de la rivière, va se mettre à surnager, à flotter. Le bois qui, lui, par nature, doit flotter, va lui couler. Dieu inverse le processus des choses. Et si aujourd'hui tu es accablé, demain, tu seras élevé. Si aujourd'hui, il y a des ennemis qui t'oppressent et que toi, tu es esclave de ces ennemis, demain fera que ta nature change et que tu deviendras, toi, fort et que tes ennemis deviendront faibles. Amen. Tu coules, à Dieu va te faire flotter. Amen. Et ce qui normalement flotte et surnage au-dessus de toi, ira en profondeur. Nous avons deux choses ici à comprendre. Le surnaturel de Dieu qui inverse le processus. Dieu est puissant. La maladie est dans ton corps. Il n'est pas possible que cette maladie descende au fond du gouffre et que toi tu remontes du gouffre guéri. Mais Dieu va inverser les choses. Tes cellules vont être inversées dans le processus diabolique et ta guérison est ici. Ton esprit est au fond, mais Dieu va remonter ton esprit en haut. Et ce sont ceux qui ont un esprit soi-disant en haut qui seront confondus. Dieu inverse le processus et la puissance de la foi. Alléluia. Nous avons deux choses ici à comprendre. La première chose, je viens de l'expliquer. La deuxième chose est beaucoup plus spirituelle, profonde et prophétique. Il est question ici du bois de la croix. et de la hache qui correspond à nos vies. Le fer de la hache est ici l'image de nos vies en travail. Nous travaillons dur, nous ne nous plaignons pas, et à un moment donné, la vie se décroche, la maladie nous frappe, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulions faire. Imaginez cette hache, remplacez-la par votre vie, le bois n'est que le corps, le fer de la hache, c'est votre enthousiasme, c'est votre vie, c'est la nature profonde, c'est votre foi, c'est ce qui va frapper l'arbre pour construire. Cette hache dans la main de Dieu qui frappe, à un moment donné a frappé si fort que le fer s'en est détaché et que le fer a été plongé au fond des eaux et a été enseveli dans les eaux du Jourdain. Dieu ressuscite les morts, Dieu ressuscite les bonnes volontés, Dieu ressuscite la foi, Dieu ressuscite la vie, Dieu vous redonne la possibilité de revenir en travail. Vous vous êtes heurté à un tronc si dur que le travail a cessé. Vous êtes heurté peut-être à un tronc que Dieu ne voulait pas utiliser. Et dans votre obstinance, vous avez frappé. Peut-être le bois qui était en train d'être coupé n'était pas un bois qui était bon pour la construction. Et l'ouvrier s'est acharné. Et dans son acharnement, le fer de la hache a décroché. Dans son acharnement, le travail est fini. Mais Dieu est puissant. Le travail va reprendre, alléluia. Le travail va reprendre pour toi. C'est ici l'image du corps et de l'âme. L'âme s'est détachée. Dans la mort, au fond du Jourdain, dans le manque d'espoir, nous sommes toujours en vie, mais il y a quelque chose de la mort qui s'est décroché, quelque chose de la vie qui s'est décroché, quelque chose de la mort qui nous a atteints, qui a aspiré notre bonne volonté, notre foi, la vigueur d'autrefois est perdue. Et nous pensons que c'est perdu à tout jamais, car là, au fond du Jourdain, au fond de l'eau, qui ira faire flotter, surnager, qui ira récupérer? Je vais te le dire, la croix de Jésus-Christ, alléluia. Élisée va prendre un bois, et ce bois sera le symbole de la croix. La croix lancée au fond du gouffre. Cette croix qui représente Jésus-Christ, qui par nature ne devait pas couler. Je vous le répète et je vous le dis solennellement, l'homme des hommes, le Fils de Dieu avec qui nous allons communier, ne devait pas couler au fond du Jourdain, ne devait pas couler au fond de l'eau, ne devait pas aller jusqu'à être enseveli au fond du gouffre. Mais il est mort à la croix. On a pris son corps ensanglanté. On l'a mis dans un linge. Et lui qui par nature n'aurait jamais dû connaître la mort a connu la mort. Lui qui par nature n'aurait jamais dû connaître la souffrance. Pensez à ce qu'Élisée a fait prophétiquement. Il a annoncé que Jésus-Christ, qui par nature ne devait pas connaître la souffrance, va connaître la souffrance et va être plongé au fond du gouffre pour faire surnager ta foi et ton âme. Si tu touches la croix de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Je parle ici de conversion, je ne parle pas de religion. J'enchaîne, je lis, je paralyse tous les démons religieux. Et je parle ici aux consciences, afin que les cœurs se convertissent. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur qui sauvera ton âme. C'est Jésus-Christ. Élisée n'a pas plongé au fond du Jourdain, il aurait peut-être pu le faire. Il aurait pu plonger et attraper cette hache et la remonter, mais il a pris un bois. Substitution de la grâce. Substitution aux miséricordes du Dieu vivant. Le bois représente ici vraiment la croix. La croix qui a porté la vie de Jésus-Christ et qui a amené la vie de Jésus-Christ au fond du gouffre. Jésus est mort. Par nature, il ne devait pas mourir, mais il est mort pour toi et moi. Ils ont frappé son corps. Ils ont meurtri ce corps saint. Jésus n'avait aucun problème. Il était dans le royaume des cieux. Aucun péché, aucune révolte. Il était soumis. Et voilà que Dieu lui envoie cette mission et lui confie cette mission de descendre dans le gouffre du monde, de notre vie, pour nous sauver. Par nature, il ne devait pas le faire. Rien ne l'obligeait à le faire. Mais il est descendu, il a défié les lois de l'univers. La loi de l'univers, c'est que tu devais mourir, c'est que je devais mourir dans mes péchés et rester au fond du gouffre à tout jamais. La loi, c'est que tous tes espoirs de service pour Dieu devaient être enterrés au fond du gouffre. Mais Jésus a fait une autre loi. Et Jésus est venu montrer le naturel de Dieu dans le surnaturel de ce monde. Jésus a montré le naturel. Le naturel de Dieu, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et personne n'empêchera la puissance de la croix de te ramener sur le chemin du travail. Alors le bois qui te flotte va plonger lourdement jusqu'au fond du Jourdain, toucher la hache. Et au moment où le bois touche la hache remonte. Si la croix de Jésus te touche, ton esprit va remonter. Tu ne seras plus au crochet des autres. Tu ne seras plus un faible homme. Ton esprit ne sera plus ailleurs. Mais tu deviendras quelqu'un de digne. L'Église vous annonce la dignité. Jésus vous annonce la dignité. Nous avons ici tellement de symboles merveilleux. Je voudrais faire un parallèle. Je vais essayer d'aller à l'essentiel maintenant. Avant, je vais finir de lire la fin de notre texte du deuxième livre des Rois au chapitre 6. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer, le fit flotter. Puis il dit « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Ce texte est absolument à mettre en parallèle avec Matthieu chapitre 3 versets 7 à 10. Je vous livre là une révélation. Deux textes. Un dans l'Ancienne Alliance, un dans le Nouveau Testament. Il est question de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste vient faire dans l'histoire? Jean-Baptiste est celui qui a été prophétisé dans ce texte et dans cette histoire. Et nous sommes aussi de ceux qui avons été prophétisés dans cette histoire. Reprends courage, mon ami. Relève la tête. Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Ceux qui me disent que la Bible a été écrite par les hommes ne peuvent pas comprendre qu'il aurait fallu une intelligence sans précédent pour écrire un livre aussi équilibré que celui-ci. Un livre qui ne se contredit pas, mais qui s'affirme, qui se confirme. Il aurait fallu une intelligence hors pair pour ramener tous les propos de Jésus avec une aussi belle clarté, pour rapporter toutes les histoires, des détails de la vie d'Israël, des apôtres ensuite, et de la vie de Jésus-Christ. Je voudrais donc vous amener pour terminer dans Matthieu 3, 7 à 10. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc du fruit digne de la repentance. J'ouvre ici une parenthèse. La repentance implique un fruit. Le pardon implique une réparation, tant que cela est possible. S'il n'y a pas réparation, il n'y a pas de pardon. Vous pouvez toujours dire pardon. Vous pouvez toujours considérer que devant Dieu, vous avez fait votre travail et que vous avez demandé pardon. Mais Dieu ne s'en arrête pas là. Et la doctrine de Christ, c'est que le pardon doit être accompagné de réparation. Produisez du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, et c'est là où le texte nous interpelle, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Quelle étrange annonce! Quel étrange dialogue! Les prophètes ont des dialogues qui parfois nous échappent. Mais ils sont équilibrés et ils se confirment dans la parole. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Nous nous rappelons, n'est-ce pas, cette histoire du livre des rois? Ils sont venus mettre la cognée à la racine des arbres pour bâtir quelque chose de nouveau. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptiserai d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, disait Jean-Baptiste, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oh, quelle chose extraordinaire! Jean-Baptiste venait de dire que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà le royaume de Dieu est forcé. Et si vous ne cherchez pas à bâtir, d'autres bâtiront. Et prenez garde de ne pas être dépassé par les événements, parce que pendant que vous ne faites rien, l'œuvre de Dieu avance. Pendant que nous ne faisons rien, d'autres font. Alors, joignons-nous au travail commun de l'œuvre du corps de Christ. Bâtissons et portons le coup à la cognée de l'arbre. Il n'y a pas de construction, d'élargissement d'esprit sans combat. Nous ne pouvons pas construire sans faire de la place. Nous ne pouvons pas construire sans abattre. Toute vérité abat un mensonge. Retenez cela. Toute vérité va abattre un mensonge. Et là où les pharisiens venaient embêter Jean-Baptiste, Jean-Baptiste savait que quand il baptisait, qu'il prêchait le baptême de repentance et le royaume de Dieu et Jésus qui venait, lorsqu'il annonçait ces choses, il détruisait la mentalité des pharisiens. Il ne peut pas y avoir de construction sans lutte. Ne pensez pas que vous allez partir et reconstruire, que vous avez été touché. Jésus, la croix est venue. Elle a ranimé quelque chose dans votre âme et elle vous a redonné vie. Alors vous ressortez du gouffre. Vous êtes remis au travail, le fer de la hache est assemblé à nouveau au bâton qui lui permet de travailler au corps. Alors, vous avez retrouvé la vigueur et vous dites maintenant, je vais reprendre le travail. Il n'y a pas de travail sans combat. Et il faut l'accepter. Jean-Baptiste annonçait que le bois qui était à abattre était la philosophie judaïsante. Vous savez que, malheureusement, il y a des chrétiens qui ont pris la Bible et qui ont fait une philosophie qui n'a plus rien à voir avec la Bible, qui a la couleur de la Bible, mais qui n'est plus la Bible. Et il y a des juifs qui ont pris l'Ancien Testament et qui ont fait une philosophie rabbinique qui n'a plus rien à voir avec la loi de Dieu. Et il en était de même du temps de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste va dénoncer les erreurs. Et nous ne pourrons pas construire une France chrétienne sans dénoncer les erreurs. Nous ne pourrons pas construire la puissance de Dieu dans notre pays sans nous heurter aux erreurs et aux mensonges afin de les mettre à terre et de dévoiler le mensonge afin que les yeux s'ouvrent. Nous voulons ouvrir les yeux et montrer où se trouve le mensonge et y opposer la vérité. C'est ainsi que tous ces éléments sont en harmonie et nous parle. La hache représente ici l'homme de Dieu, la fidélité, le chrétien fidèle. Il met la cognée à la racine de l'arbre pour élargir la grâce. Nous détruisons le mensonge pour élargir la grâce de la vérité. Non, Jésus n'est pas un prophète, il est plus que ça, il est le Fils de Dieu. Non, une société sans Dieu n'est pas une société viable. Nous devons le dire. Et ceux qui donnent le mensonge en disant que nous n'avons pas besoin de Dieu dans notre société doivent comprendre que la nécessité absolue de la religion chrétienne doit être prêchée parce que nous avons besoin de Dieu dans nos vies. L'arbre correspond à la vie de ceux qui ne portent pas de fruits. L'arbre correspond aussi aux mensonges que nous abattons. Nous construisons la vérité en nous appuyant précisément sur les terrains qui sont remplis de mensonges. Nous ne pouvons construire la vérité que là où il y a le mensonge. Si vous voulez construire là où il y a la vérité, vous perdez votre temps. Si vous voulez aider un chrétien qui est déjà affermi, vous perdez votre temps. Allez plutôt aider le pécheur. Ne perdez plus votre temps avec les chrétiens. Laissez l'Église édifier les chrétiens. Allez chercher les perdus. Ce sera de loin la meilleure construction pour Dieu. Les racines qui étaient ici l'image du judaïsme. Judaïsme était frappé par la doctrine de Jean-Baptiste. Judaïsme était ébranlé. La cognée était mise à la racine. La hache était Jean-Baptiste qui frappait les racines en disant « Ces racines ne sont pas bonnes. Il y a d'autres racines qui sont bonnes, mais celles-ci sont artificielles. » Alors nous devons aussi frapper à la racine du mal et dénoncer les problèmes là où ils sont, en toute vérité et avec beaucoup d'amour. Nous ne dénonçons pas les gens, nous ne persécutons pas des gens, nous dénonçons des idées et nous déchirons, nous taillons en pièces des idées mensongères et nous préservons l'individu. La cognée, c'est le choc spirituel. La cognée est mise à l'arbre. Si tu n'as pas de force spirituelle, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une cognée forte. Et parfois, cette cognée est si forte qu'on y perd la vie. Béni soit le Seigneur pour tous les prédicateurs qui y ont laissé leur cœur, leur vie, prêchant l'Évangile. Ils sont morts de crise cardiaque parce qu'ils ont tellement cogné fort. Béni soit le Seigneur pour l'hardiesse. Leur âme sera ressuscitée au dernier jour. Faites du travail pour Dieu. Engagez-vous. N'ayez pas peur. Votre âme sera ressuscitée au dernier jour. La cognée spirituelle, le fer, c'est ici l'essence même de la vie, je l'ai expliqué. Et le bois, c'est le bois de la croix qui, par nature, je le répète, ne flotte pas. Je vous encourage à considérer l'excellence de Jésus-Christ qui est descendu jusqu'au séjour des morts pour vaincre la mort et nous racheter. Je m'adresse ici à ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. De tout votre cœur, donnez votre vie à Dieu. N'attendez pas. Donnez tout au Seigneur. Soyez sauvés. Et ceux qui sont sauvés, je les exhorte vraiment à élargir l'espace de leur tente, leur vision, à essayer d'aller plus loin pour porter la bonne parole et à se mettre au travail pour Dieu. Et si dans le travail, tu as été déçu, que le fer de la hache s'est détaché, Dieu est tout-puissant pour faire surnager ce fer et l'assembler à nouveau afin que ta vie soit puissante. Quelle gloire! N'oubliez pas, l'homme a dit « Le fer était emprunté. Ta vie ne t'appartient pas. C'est un prêt que Dieu t'a fait sur terre. Ce que tu possèdes, ce que tu as, ce que tu es, est un prêt de Dieu. Que vas-tu en faire? Les talents que tu as sont un prêt de Dieu. Que vas-tu en faire? La hache! Ton enthousiasme, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas prétentieux et ne te vante pas de ta stature en Christ, car tout est donné par Dieu, tout est prêté. Et au dernier jour, tu recevras pour l'éternité la vie définitive.
Enseignement.com.
Enseignement.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignement.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.